Donc sans plus attendre maintenant, on continue notre série que nous avons débutée. J'entame ce matin la dernière partie, la troisième partie de la série que j'ai commencée il y a quelques temps. Vous vous souvenez du thème ? Ouais. Demande à ton voisin s'il se souvient. Il y en a qui n'osent pas demander. Ouais, les géants, ouais, les géants. Les géants quoi ? Les géants dans nos vies, ouais. Ils font quoi les géants dans nos vies ? Ils nous paralysent, c'est ça, ouais. Mais le thème du message, c'est le géant tombera. Voilà. Parce que les géants, oui, on sait qu'il y en a, c'est sûr, et ça, on peut se le dire souvent. Mais ce qui est important, c'est que le géant tombe. Alors, on a vu ça il y a quelques semaines, que, donc en lien avec l'histoire de David et Goliath, évidemment, il y a fort à dire autour de cette histoire. Et puis, on a vu que ces géants sont, comme dans l'histoire de David et Goliath, des fois, sont sur notre chemin, qui nous empêchent d'avancer. Voilà, j'aime bien cette image-là, elle est parlante. C'est souvent comme ça dans nos vies. Il y a un géant qui se dresse, et puis il n'y a plus rien qui avance, on a peur. Et puis souvent, c'est ce que nous avons étudié, ce que nous avons vu ensemble, ce géant, il a grandi, il nous terrorise, mais parce qu'on a été négligent, parce que peut-être on a eu la flemme ou je ne sais quoi, et puis on l'a laissé grandir. Et tout ce qu'on laisse grandir, bah grandit justement, et puis nous empêche d'avancer. Nous avons vu, comme dans l'histoire de David et Goliath, que pendant 40 jours, qui correspond à un temps accompli, à un temps voulu de Dieu, un temps nécessaire, bah le géant va venir nous faire trembler, il va venir peut-être nous questionner par rapport à nous-mêmes, va nous renvoyer à nos échecs, à notre personnalité, pour nous laisser découvrir que nous avons besoin de Dieu pour faire tomber ces géants. Nous avons prié déjà pour cela. Et puis, nous avons vu que face à ce géant, soit on tremble, soit on se lève. Et dans l'histoire, c'est David, un jeune berger, qui en apparence n'a rien pour plaire, n'a rien d'un guerrier, mais par contre, il a un cœur selon le cœur de Dieu. Il a envie de savoir ce que Dieu va faire. Et puis lui, il a des expériences parce qu'il a une relation avec Dieu. Et quand on a une relation avec Dieu, on a des expériences, des fois de défaite, des fois de victoire. Mais au cours de sa relation avec le Seigneur, il a forgé des armes personnelles. Nous allons voir un peu plus en détail ce matin quelles sont ses armes. Mais c'est ses armes à lui et ce n'est pas celles des autres. Ce n'est pas les armes qui sont flamboyantes, qui sont bien coupantes, bien tranchantes. C'est ses armes à lui. Et on voit que son cœur, désireux de servir le Seigneur, qui connaît le Seigneur et qui a eu des expériences, lui va se lever et va dire à partir de maintenant, le géant, tu vas fermer ta bouche et puis moi, je vais aller te défier pour que tu puisses tomber. Donc j'aimerais vous dire ce matin, si vous prenez la série en cours, j'aimerais vraiment proclamer d'une manière prophétique que quel que soit votre géant, il va tomber au nom de Jésus. Il suffit juste de pouvoir se lever, de se lever avec les armes que nous avons reçues, les armes que nous avons forgées dans notre relation avec le Seigneur. Et je crois que le géant peut tomber. Alors je disais, David, il va en guerre avec ce qu'il est finalement. Ça rejoint un petit peu ce que je disais en introduction. On loue le Seigneur en esprit et en vérité. Et puis bah, d'une certaine manière, on se bat aussi en esprit et en vérité avec ce que l'on est, avec les armes qu'on a reçues. Et ce n'est pas le moment de se la raconter, comme on dit, c'est juste le moment d'être soi-même. Et moi j'ai appris quelque chose, c'est que ce qu'on a reçu, on l'a reçu, et ce qu'on n'a pas reçu, on ne l'a pas reçu, tout simplement. On aura beau essayer de faire semblant, essayer de... Mais ce qu'on n'a pas reçu, on ne l'a pas reçu. Il y en a qui, des fois, au niveau de leur relation... Ils aimeraient exprimer plus d'amour, ils aiment bien recevoir plus d'amour, mais des fois, dans la manière dont on a été forgé, dont on a été construit, dans la relation qu'on avait avec nos parents, il y a comme eu des carences. Et moi, je me suis souvenu de ça à un moment donné, je me suis dit, c'est marrant, parce que moi, j'aimerais aimer, j'aimerais être plus démonstratif, j'aimerais faire plus de câlins, et je me rends compte que des fois, c'est des choses que moi-même, j'ai souffert et que je n'arrive pas à redonner. Parce que je n'ai pas reçu ces choses-là. Alors Dieu est un Dieu de grâce et il nous redonne aussi ce que, d'une certaine manière, on n'a pas pu avoir dans un domaine ou dans un autre. Mais je suis ce que je suis et je suis comme Dieu a voulu que je puisse être aussi. On essaie toujours et de plus en plus dans notre société où c'est l'apparence qui compte de ressembler à l'un et de ressembler à l'autre. Et même dans nos églises où on essaie telle église, ah bah si on veut une église qui marche, il faut faire comme telle église où il y a beaucoup de vues sur Facebook ou je ne sais quoi. On n'est que ce que l'on est. Et ce que l'on est, c'est le Seigneur qui l'a voulu. Alors on peut se réjouir parce que nous sommes une merveilleuse église. Pourquoi ? Parce que le Seigneur nous a voulu comme ça. Et l'église que nous sommes, c'est son œuvre au Seigneur. C'est son œuvre à lui. Et on n'a rien à dire sur cela, Alors évidemment, on va s'organiser en fonction de ce que le Seigneur va nous montrer, mais on va rester ce que l'on est tout simplement, avec l'ADN qu'on a reçu, et puis on ne va pas essayer de ressembler à qui que ce soit, parce qu'on est juste nous. Et c'est bien d'être soi, n'est-ce pas ? Moi j'aime bien, quand je rentre à la maison, quand j'ai travaillé, tout ça, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'aime bien me mettre à l'aise. J'aime bien mettre un t-shirt, vous voyez, ce genre de choses, être à l'aise, surtout quand il fait chaud. J'aime bien être moi-même. Il n'y a que quand je suis moi-même que je suis à l'aise et que je suis efficace. Moi, j'ai remarqué ça. Est-ce que c'est le cas pour vous ? Bon, alors soyez vous-même, avec vos armes, avec ce que le Seigneur vous a donné. C'est ce que David a fait. Et dans 1 Samuel, au chapitre 17, à partir du verset 40, voici ce que nous dit le texte. Il prit son bâton en main. C'est David. Il prit son bâton en main et choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses qu'il mit dans le sac de berger, qui lui servait de besace. Et sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Rappelez-vous que le Philistin, c'est Goliath, et que c'est un gros bébé de 4 mètres de haut. Vous voyez ? Il y en a qui font 4 mètres dans la salle. Qui est le plus grand dans la salle, niveau physique ? Je sais pas. Ah, Théophane, c'est toi. Vas-y, lève-toi, Théophane. Voilà. Là, on est à peu près un demi-Goliath, vous imaginez ? Donc voici David avec sa besace, avec son bâton et ses 5 cailloux qui s'approche de Goliath. Avec ses armes, avec ce qu'il est, sans prétention, sans armure, juste ce qu'il est. Verset 41, celui-ci, Goliath, précédé de son porte-bouclier, s'avança vers David. Il examina et, lorsqu'il vit devant lui un jeune homme roux et de belle figure, il le regarda avec mépris et lui lança. Est-ce que tu me prends pour un chien pour venir contre moi avec un bâton ? Puis il le maudit par ses dieux. Approche un peu, ajouta-t-il, pour que je te donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Voilà la confrontation. Ce jeune David, rouquin, berger, avec ses armes, il a pris son bâton, sa fronde, et il a pris 5 pierres ou 5 cailloux. Je fais juste une petite parenthèse sur ça parce que c'est fort intéressant. Je disais que David est quelqu'un qui a une relation avec Dieu et que ces armes qu'il utilise sont des armes qu'il a forgées pendant ses temps de relation avec le Seigneur. Au travers des difficultés, lorsque les loups, les lions se présentaient devant lui, il a appris à maîtriser les armes pour terrasser les ennemis qui étaient devant lui, si c'était des animaux ou autres. C'est des armes qui, d'une certaine manière, ont le prix de la sueur de son front et de ses heures de prière et de relation avec Dieu. Et vous savez que lorsqu'on prie, j'ai dit ça la semaine dernière aussi, que pour moi, à un moment donné, la prière, j'ai découvert que c'était un refuge, une arme où je me sentais bien, mais aussi où je pouvais recevoir des directions d'une certaine manière. Et des fois, même sans que je réalise que ce soit des directions. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais le Seigneur vous dit, fais ça ou va dans telle direction ou prends telle et telle chose. Et on ne comprend pas pourquoi et on le fait. Et l'avenir nous montre finalement que c'est le Seigneur qui nous avait conduits. Moi, j'ai fait des choses lorsque j'étais plus jeune, quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression de faire les choses un peu par défaut, parce que j'avais pas le choix, parce que j'aimais pas l'école, par exemple, j'ai appris un métier, et puis ça avait pas trop de sens pour moi. Je me disais pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Et finalement, ces choses que j'ai apprises lorsque je connaissais pas le Seigneur, m'ont servi après, une fois que j'ai connu le Seigneur, pour faire des travaux dans l'église, par exemple, ou des choses comme ça, voyez-vous ? Et d'un point de vue spirituel, c'est pareil. Il y a des choses que j'ai acquises à un moment donné, je me suis dit, pourquoi ? Pourquoi ça, finalement ? Pourquoi est-ce que je vis ça ? Pourquoi est-ce que j'ai reçu ça ? Je ne vois pas, et plus tard, je vois et je comprends. Dans ma vie, il y a eu des moments de tempête, des moments de géants, des moments de Goliath devant moi, et peut-être à l'instar de ces Juifs, devant le Philistin de 4 mètres, au moment où ça arrive, je ne comprends pas pourquoi. Et puis finalement, une fois que c'est passé, une fois que j'ai fait ce que le Seigneur m'a demandé, j'ai compris. Alors David, lui, a une relation avec Dieu. Et puis dans sa relation avec Dieu, je ne suis pas en train de dire qu'il a tout compris et qu'il sait ce que Dieu et comment Dieu va le conduire. Jésus savait, lui, à l'instar de David certainement. Jésus, je crois, savait à l'avance. Nous avons vu tout à l'heure, lors du texte de la Samaritaine, que Jésus avait certainement reçu qu'il devait y aller à midi. Il savait ce qui allait se passer. David, je ne pense pas qu'on puisse dire ça, malgré la sensibilité qu'il avait, mais il écoute Dieu. Et lorsque, dans sa relation avec Dieu, où il est ce qu'il est, avec ses armes, etc., il prend 5 pierres. Pourquoi 5 pierres et pas 6 pierres ? Pourquoi pas 4 ? Pourquoi pas 3 ? Qui dit mieux ? Pourquoi pas une ? Pourquoi des petites pierres ? Pourquoi pas une grosse ? On peut se poser tout un tas de questions. Ben, lui, il ne le sait pas non plus. Mais il prend cinq pierres. Certainement conduit par l'Esprit de Dieu à prendre cinq pierres. Vous êtes d'accord avec moi ? On continue. Et en fait, il y a une symbolique, il y a une signification qui est importante dans tout cela, qui va nous aider. C'est que lorsque nous affrontons nos géants, dans ce que nous avons reçu, dans ce que nous sommes, des fois le Seigneur nous conduit dans des choses qui sont nulles. On pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que je fais ça ? Et finalement, ça a une grande importance. Si on va un petit peu plus loin dans l'histoire, nous savons, parce que nous connaissons l'histoire, que David finalement va prendre sa fronde, donc scoop, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Goliath va tomber, il va être terrassé, on y reviendra après. Et puis quelques temps après, voici David, avec toujours le même peuple, qui va continuer à guerroyer. Et puis on le trouve dans 2 Samuel, au chapitre 21, à partir du verset 15. Et voici ce que nous dit le texte, c'est très intéressant. Une nouvelle fois, il y eut une guerre entre les Philistins et Israël. David et ses troupes se mirent en campagne pour combattre les Philistins. David était épuisé. Yishbi Benob, un descendant de Rapha, se vanta de tuer David. Il était ceint d'une épée neuve et portait un javelot dont la pointe de bronze pesait plus de 3 kg. Donc en disant ça, vous avez compris que lui aussi, il fait de la muscule, il prend des amphétamines, etc. quoi. Il est costaud. Mais Abishai, fils de Tseruya, vint au secours de David et mit à mort le Philistin. Alors les hommes de David adjurèrent leur roi de ne plus venir avec eux au combat pour ne pas risquer de mettre le guide d'Israël en péril. Plus tard, à l'occasion d'une nouvelle bataille avec les Philistins, à Gob, Sibekai, le Houstatite, tua Zaph, un descendant de Rapha. Lorsque tint combat contre les Philistins à Gob, Elnanan, fils de Yaregorim de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui était une lance dont le poids était aussi gros que le cylindre d'un métier à tisser. Vous avez compris que c'est un grand géant, un grand costaud aussi. Verset 20. Dans une autre bataille, Agath, un champion, lui aussi descendant de Rapha, et qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, c'est-à-dire 24 en tout, facile pour taper à la machine, ça. Lança un défi à Israël. Jonathan, fils de Shiméa, le frère de David, le tua. Ses 4 descendants de Rapha, nés à Gath, succombèrent devant David et ses hommes. Je ne sais pas si vous avez compris le texte. Je vais vous le traduire, vous le simplifier, vous le résumer. C'est à la mode aujourd'hui avec les intelligences artificielles. Là, c'est mon intelligence qui vous résume. En gros, ce qui s'est passé, ils ont continué à faire la guerre contre des géants qui se sont dressés devant eux et les ont mis à mort. Et combien y avait-il de géants ? 4. Ah, t'as anticipé. 4. Parce que le cinquième, c'était qui ? Goliath. Est-ce que vous saisissez ce que le Seigneur nous dit au travers de ce texte ? C'est que David, certainement malgré lui, mais dans sa relation qu'il avait avec le Seigneur le conduit à prendre 5 pierres. Une pour Goliath et 4 pour chacun de ses frères. C'est fort ça. Ce que j'aimerais nous dire, c'est que dans nos temps de relation avec Dieu, il nous conduira certainement à faire des choses, à dire des choses, recevoir des choses qui pour nous n'auront pas de sens. Mais mises à la lumière de l'histoire ou de l'action de Dieu, ça prendra tout son sens. Notez qu'il y a une pierre pour chaque géant. Ce n'est pas la même pierre pour chaque géant. Ça nous parle aussi. Nous avons reçu des fois des choses, et parce qu'on est des hommes et des femmes du genre humain, on a tendance à répéter les choses qui marchent bien, en espérant que ça marche à nouveau de la même manière. Je sais que fut un temps, on a fait de l'évangélisation sous les chapiteaux, où on avait une certaine forme, et puis il y avait un certain succès. Et moi, j'ai vu des plus anciens que moi répéter les choses, et je critique bien entendu personne, il n'y a aucun jugement dans tout ça, mais on a tendance à répéter les choses, appliquer la même méthode pour que ça marche de la même manière. Mais ce que je constate, et c'est un peu ce que je disais la dernière fois, c'est que Dieu veut nous faire entrer dans des choses nouvelles, qui demandent un temps de relation avec lui, qui demandent le courage, la persévérance et l'effort de prendre du temps avec lui pour se laisser guider. Répéter les mêmes choses d'une certaine manière, c'est un peu forme de paresse. On rentre dans des choses qu'on connaît déjà. Mais redécouvrir à nouveau de quelle manière le Seigneur veut nous utiliser, ça c'est compliqué. Alors peut-être qu'au travers de ces 5 pierres, on voit cette pensée-là. Pas une pierre pour les 4, pas une méthode appliquée pour tous, mais d'une certaine manière une méthode différente à chaque fois. Alors voilà que David, inspiré par Dieu, prend ces 5 pierres et puis 5 pierres correspondent à 5 géants à faire tomber. si vous avez des géants, j'ai vu les uns les autres cette semaine, certains m'ont dit, moi j'ai tellement de géants dans ma vie que je ne sais même plus les compter, je ne sais même plus par où commencer. Moi non plus. Des fois les gens me disent ça, ben, moi non plus je ne sais pas. Mais en tout cas le Seigneur sait. Et j'aimerais vous encourager peut-être à être attentif, sensible à la manière dont le Seigneur va vous conduire. Peut-être dans des choses qui vous paraîtraient bizarres, mais que le Seigneur veut utiliser pour faire tomber chaque géant qui sont encore peut-être devant vous. Lorsque j'étais plus jeune, je me souviens, je commençais à aller sérieusement avec le Seigneur. Et puis, on était dans une église en Normandie. Et puis voilà qu'on faisait venir un évangéliste qui était du Suriname. Un gars que j'avais vu, qui avait à l'époque, il avait mon âge, donc il doit toujours avoir à peu près mon âge, finalement, mais qui était en feu vraiment pour le Seigneur. Et je l'avais vu une fois, je m'étais dit, mais j'aimerais tellement avoir ce qu'il a reçu. Et puis j'ai compris après que ce que j'avais reçu, c'était déjà pas mal, finalement, et que ça plaisait plus au Seigneur que je rentre dans ce que moi, je n'avais pas reçu. Enfin bref. Et du coup, il devait venir pour faire un temps d'évangélisation. Et puis on avait pris un temps de prière pour préparer sa venue. Et puis. Pour prier pour la ville, pour que vous savez comment nous on est déjà, les évangéliques, on prie pour toutes les puissances qui tiennent la ville, etc. Enfin, on était rentré dans quelque chose comme ça. Et puis, moi, simplement, avec qui j'étais, ce que j'étais, lorsqu'on priait, alors, j'avais vu une image d'un taureau et qui se préparait à charger. Et puis voilà qu'on prie tous ensemble, on était une vingtaine, et puis le pasteur dit, mais est-ce que vous avez reçu quelque chose? Et puis moi, je dis, j'ai vu une tête de taureau. Et là, vous savez ce que je me dis dans ma tête? Oh, le blaireau. Je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai dit un truc comme ça? Pourquoi est-ce que c'est complètement ridicule? Ça n'a pas de sens. Et effectivement, ça n'avait pas de sens, en tout cas. Et puis, je me rappelle même que le pasteur m'a regardé et j'ai eu l'impression que de sa tête, il m'a dit un truc du genre, ah oui, d'accord. Enfin, bref, je l'ai dit. Et puis après, je suis allé travailler, on priait le matin. Et puis, toute la matinée, je me disais, t'es vraiment... Je ne peux pas fermer ta bouche. Il y en a qui se disent ça des fois. Moi, ça m'arrive souvent. Je me dis, mais tais-toi, Julien. Bon, bref, je l'ai dit. Et puis le soir, du coup, on avait la fameuse réunion. Et puis le gars qui arrivait du Suriname, ils avaient été le chercher à l'aéroport. Et puis, ils avaient eu à cœur de faire un tour dans la ville, etc. Et puis lui, le gars qui venait du Suriname, il avait reçu, donc lorsqu'il était au Suriname pour venir en France, tout ce qui sera lié sur la terre sera lié dans le ciel. Vous connaissez ce texte, tout ce qui sera lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et puis, ils proclamaient ça, et puis ils font le tour dans la ville. Et puis là, il arrive sur l'église, dans la ville, devant l'église. Et puis, c'est une église en Normandie. Vous savez qu'une bonne partie de la Normandie a été rasée pendant la guerre. Ils ont reconstruit. Et ils ont reconstruit une église donc moderne, donc dans les années 50, avec des sculptures un petit peu partout, une verrière, et des statues partout dessus. Et puis, dessus, c'est écrit, tout ce qui sera lié sur la terre sera lié dans le ciel, etc. Vous connaissez ce verset. Et puis, lui, il voit ça. Et puis, il bloque. Il dit, ah, le Seigneur va certainement montrer quelque chose par rapport à ça, quelque chose qui tient la ville, vous voyez, c'est ce qu'il dit. Et puis en dessous, il y a plein de statues, comme je vous l'ai dit. Et qu'est-ce qu'il y a sur ces statues? Il y a une tête de taureau. Il faut savoir que moi, je n'habitais pas la ville, donc je ne connaissais pas. Et puis moi, à cette époque-là, l'architecture du coin, ce n'était pas le truc qui m'intéressait, voyez-vous. Mais d'une certaine manière, en rassemblant les pièces du puzzle, des choses qui paraissent bizarres et un peu folles, finalement, alors peut-être vous allez me dire, oh, Julien, c'est une coïncidence. Ou pas. Ou peut-être que le Seigneur a vraiment inspiré l'un, inspiré l'autre. Et puis au final, lorsqu'on voit le puzzle complet, on se dit, mais le Seigneur agit, le Seigneur parle. Alors j'aimerais vous encourager dans votre relation avec le Seigneur, face aux géants qui se dressent devant vous, ou peut-être par rapport à votre vie, tout simplement, de dire, Seigneur, étonne-moi. Et puis j'accepte même de peut-être paraître ridicule dans ce que tu vas me permettre de recevoir. Et vous savez, des fois on reçoit des choses qui nous paraissent ridicules, et quand on les met vraiment à côté des autres, à la lumière du Seigneur, on se rend compte que le Seigneur nous utilise. Et des fois, j'aimerais juste le dire aussi, que des fois on reçoit des choses qui ne sont pas du Seigneur aussi. Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de les mettre à la lumière. C'est important, on le dit souvent, parlez, le Seigneur va vous parler. Et des fois, le Seigneur ne me parle pas. Des fois, c'est juste mon cerveau qui invente des choses. Ou des fois, c'est parce que j'ai mangé trop de pizza le soir, j'ai fait des rêves et c'est l'indigestion. On voit des trucs et donc c'est pour ça qu'on a besoin des uns des autres. Peut-être on en reviendra un jour, mais dans l'Épître aux Corinthiens, Paul dit, l'esprit des prophètes est soumis à l'esprit des prophètes. Et ensemble, on discerne ce qu'on a reçu. Amen. Alors lui, il a reçu cinq pierres pour faire tomber les quatre frères de Goliath et Goliath lui-même. Ça me fait penser à ce texte qu'on trouve dans Deux Rois, où il y a un roi qui vient voir Élisée le prophète. Deux Rois, chapitre 13, à partir du verset 14. On va le lire ensemble. Et ce texte commence de cette manière. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Quand Joas, le roi d'Israël, lui rendit visite, il se pencha sur son visage et pleura en répétant « Mon père, mon père, mon père, toi qui es comme les chars d'Israël et ses équipages. » Élisée lui dit « Prends un arc et des flèches. » Joas se les fit apporter, puis Élisée lui ordonna « Tends l'arc. » Quand il l'eut tendu, Élisée posa ses mains sur celles du roi et dit « Ouvre la fenêtre du côté de l'est. » Joas l'ouvrit, puis Élisée commanda « Tire !» Il tira. Élisée s'écria « C'est la flèche de la victoire de l'Éternel, la flèche de la victoire contre les Syriens. Oui, tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. » Élisée ajouta « Prends maintenant d'autres flèches. » Il les prit. « Frappe contre le sol. » Le roi d'Israël frappa 3 coups et s'arrêta. L'homme de Dieu se mit en colère contre lui et lui déclara « Il fallait frapper 5 ou 6 coups, alors tu aurais vaincu les Syriens jusqu'à leur extermination, tandis qu'à présent tu ne les battras que 3 fois. » Il y a des fois des actes prophétiques que nous recevons dans notre relation avec le Seigneur. C'est le cas où Élisée parle au roi en lui disant « Voici, c'est la flèche de la victoire. » Comme David qui reçoit cette pierre de la victoire. Et ce que Dieu lui a dit, vas-y, prends-en 4 autres, parce que si tu en prends 4 de plus, ça fera 5, tu iras jusqu'au bout, la victoire sera totale. Et peut-être que David aurait pu dire, oh, les 5 pierres, c'est lourd. Une petite besace, là, que j'ai achetée en solde chez Amazon, elle n'est pas bien costaud. Il aurait pu trouver des arguments, il aurait pu trouver un truc. Mais il a été jusqu'au bout. Le roi, lui, en l'occurrence, la flemme, il a tiré 3 flèches simplement. Le Seigneur nous donne la possibilité de victoire pour faire tomber le géant, d'une manière ou d'une autre. Là encore, ne soyons pas négligents, ne soyons pas feignants d'une certaine manière, allons jusqu'au bout pour saisir la victoire. Amen. Alors voici David, nous revenons à notre histoire, qui avec sa besace, avec son bâton et avec ses 5 pierres, va affronter Goliath. Il y va en disant « Moi, je vais au nom de l'Éternel te combattre ». Et voici que ce Goliath est là. Théophane, tu veux venir pour l'illustration, s'il te plaît ? C'était pas prévu, on peut l'applaudir. C'est dur de trouver des acteurs de nos jours. Hein. Vas-y, viens à côté de moi. Voilà. Donc voici le demi-Goliath. Ok ? Et donc, il est pas content, Goliath, parce qu'il voit un jeune rouquin, c'est moi, David. Ok ? J'ai toujours les bons rôles. Hein. Et avec ma besace, voilà, avec mon bâton et mes 5 pierres, et puis je m'approche comme ça, et puis moi, je me bats au nom de l'Éternel. Et puis l'autre, avant, il lui a dit, oh, tu me prends pour un chien avec ton bâton, etc. Puis David, il dit rien, mais il dit, tu vas voir. Bon, il tire une pierre, on imagine la pierre. Pouf. Voilà, et là, il tombe, vous voyez, il a bien fait. Merci, on peut l'applaudir. Merci Théophane, tu peux retourner à ta place. Il a fait exactement ce que je ne lui ai pas dit de faire, mais qu'on fait naturellement, voyez-vous. C'est que lorsqu'on tire une pierre de toutes ses forces et qu'on se la plante en pleine tronche, comme on dit ici, on recule et on tombe sur le dos, comme il a montré. Okay. Et le texte nous dit quoi? Ah, il faut réviser, attention. Moi, je suis comme Georges. Hein. Georges, il vous fait chanter. Moi, je vous fais réviser et dire les textes. Le texte dit que, verset 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 48, on va lire ce qu'on a mimé. Aussitôt, le Philistin se remit à avancer en direction de David, qui, de son côté, se hâta de courir vers la ligne ennemie au-devant du Philistin. David plongea la main dans son sac, en tira un caillou et le lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin en plein front. La pierre pénétra dans son crâne et il s'écroula la face contre terre. C'est bizarre, hein ? Parce que quand on se prend une pierre dans le front, normalement, moi je suis pas physicien, ok, on est d'accord, mais j'ai expérimenté ça quand j'étais gamin. Hein ? On tombe vers l'arrière. Et là, voilà qu'il tombe vers la face contre terre. Il y a certainement 2 choses, 2 symboliques que j'aimerais retenir. C'est que David est un jeune rouquin, berger, qui n'est pas un guerrier, mais il se bat au nom de l'Éternel. Il n'y va pas en son nom à lui. Mais lorsqu'il y va, il sait que l'Éternel marche avec lui. C'est David aussi qui a écrit ce fameux psaume, « Tu m'entoures par devant, par derrière, tu sais quand je me couche, quand je m'assieds, etc. » Il sait que Dieu est partout autour de lui. Et voici que David s'approche, qu'il jette sa pierre, c'est son pas de foi, pour faire tomber le géant. Première explication, au moment où il jette sa pierre, vous savez ce qui se passe ? C'est que Dieu envoie son plus bel ange, le plus gros, le plus costaud, et puis il lui dit, toi, tu vas te mettre derrière Goliath. Et au moment où la pierre va toucher le front de Goliath, Dieu dit à l'ange, tu vas lui mettre un coup de latte comme ça, pour qu'il s'écroule par terre et qu'il plie le genou devant moi. C'est mon explication, vous en avez d'autres ? Tout ça pour dire qu'au moment où David, avec son pas de foi, jette la pierre, Dieu fait le reste. Et il vient humilier Goliath face contre terre. Il vient l'écraser, ce Goliath qui parle mal du peuple que Dieu s'est choisi, face contre terre. Elle est belle cette image-là. Alors lui, Goliath n'était pas comme ça, mais il était face contre terre. Symbole aussi où je plie les genoux devant Dieu. Symbole où je n'ai plus rien à retenir devant Dieu. Je suis humilié devant Dieu. Il y a cette notion-là. Alors dans nos géants, ceux qui nous affrontent, ceux qui nous empêchent d'avancer, il y a les armes que j'ai reçues, qui sont humbles, qui sont peut-être juste une pierre ou un bâton. Et puis finalement, quand on y réfléchit, juste une pierre pour terrasser un géant, c'est peut-être pas suffisant. Alors les uns diront, mais oui, en fait, si tu la tires bien au bon endroit, et apparemment, comme c'était au front, c'était juste bien placé, ce qui a fait, enfin voilà, il y a plein de théories. Vous pouvez choisir la théorie que vous voulez, mais moi, celle que je choisis, c'est qu'au moment où David, il jette sa pierre, il fait un pas de foi, Dieu intervient et Dieu va terrasser lui-même le géant. Peut-être que face au géant que vous avez devant vous, vous dites, oui, moi j'ai beau me lever, et puis j'aime bien, Julien, ce que tu dis, oui, le géant tombera, et tout de suite on regarde à nos armes et à nos incapacités. Et on regarde effectivement la grandeur du géant, la grandeur de la difficulté, et on oublie que celui qui fait le taf, si je peux dire comme ça, c'est le Seigneur. Tout ce que nous avons dans nos vies et tout ce dont Dieu nous appelle à entrer dedans, c'est lui qui va nous rendre capables. S'il nous appelle, il va pourvoir. S'il nous appelle, il va nous donner ce qui est nécessaire pour y aller. Et il nous appelle à la victoire, je crois. Il nous appelle à être libérés de nos géants. Aussi, il va faire le taf à un moment donné. Quand ? Lorsque je donne mon accord. Et je donne mon accord lorsque je mets ma foi en action. Vous connaissez ce texte qui dit que, avec un tout petit peu de foi, comme un grain de CV, un petit grain de moutarde, je dis à cette montagne, jette-toi et de là, va dans la mer, et elle irait. Ce texte nous montre que peu importe la taille de ma foi, peu importe, même si elle est petite, toute petite, comme un grain de moutarde, un grain de CV, la grâce de Dieu va surpasser le peu de foi que j'ai. La foi, c'est quand je monte vers Dieu, moi. Je mets mon action en disant, je vais te servir, toi, Dieu. La grâce de Dieu, c'est Dieu qui me rejoint et qui va accomplir son action. C'est ce qui se passe. David va avec sa petite pierre et Dieu descend et terrasse lui-même le géant. Et lui dit maintenant, tu vas fermer ta bouche, tu vas plier le genou devant moi. C'est ce qui se passe. C'est ce que le Seigneur veut faire dans nos vies lorsque nous choisissons de lui faire confiance. Seigneur, j'ai rien, je suis qu'un berger. J'ai pas de gloire, j'ai pas de particularité, je suis pas quelqu'un, moi je suis pas quelqu'un qui est brillant, j'ai pas de talent particulier que tu dis d'ailleurs. Mais Seigneur, je veux. Et je veux pas supporter une fois de plus que ce géant me fasse trembler, je veux me lever. Et je crois qu'au moment où je me lève, toi tu vas faire le reste. Au moment où je vais me lever dans la prière, avec ce que je suis, avec ce que j'ai reçu, je crois que tu vas faire la victoire aller jusqu'au bout et que le géant va tomber, pas sur son dos, mais va plier le genou devant toi. C'est ce qui se passe dans cette histoire, je le crois, de tout mon cœur. Alors, la suite de l'histoire, c'est que David, imaginez-vous, mettez-vous à la place de David, ce petit berger qui sort de nulle part. On ne connaît même pas le père, enfin, on se demande qui est son père plutôt, et puis même après Saül dira, mais c'est le fils de qui celui-là, d'où il sort, etc., qui arrive d'une certaine manière un peu de nulle part. Et puis imaginez-vous, mettez-vous à sa place, il arrive en disant, c'est quoi là, le peuple d'Israël qui est arrêté, il n'y a personne qui veut aller, etc. Et moi j'arrive parce que j'ai une relation avec Dieu, et puis moi qui suis tout petit, qui ne suis pas un guerrier, c'est moi qui arrive à terrasser le Goliath. Combien s'imaginent dans la place de David ? Moi, je m'imagine, et vous savez ce qui serait venu dans ma tête ? Alors, c'est moi ou c'est pas moi ? Heureusement que je suis venu, n'est-ce pas ? Heureusement que le Seigneur m'a appelé à aller les délivrer, ces bandes de tocards, là, qui n'avançaient plus. Heureusement que c'est moi, et puis c'est moi qui l'a choisi, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein. C'est moi, l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'y a que moi qui aurais pensé ça ? Des fois, on a des élans, on est méga spirituels. Mais en tout cas, David, c'est intéressant, je dis toujours, de ne pas savoir les sous-titres et ce qui se passe dans la tête, finalement. Mais peut-être qu'il a eu ça, mais en tout cas, son action, son attitude n'a pas démontré ça. Est-ce qu'il l'a combattu? Est-ce qu'il a choisi de rester humble? Certainement. Ou peut-être que son cœur n'était pas corrompu par tout cela à ce moment-là. En tout cas, j'en sais rien. Mais il aurait très bien pu se dire, bon, bah, c'est moi, je suis intervenu, il s'est passé quelque chose. Et puis maintenant, je vais pouvoir entrer dans la promesse de Dieu, c'est-à-dire devenir roi. Et la suite de l'histoire, vous lirez à la maison et vous verrez que c'était plus complexe que ça. Mais qu'il a demeuré, même dans ses chutes, l'homme selon le cœur de Dieu. Et puis, il aurait pu se dire, bon, bah, ça y est, maintenant, Goliath, il va moins la ramener maintenant, qu'il est face contre terre, qu'il a plié le genou. Maintenant que tout le monde a vu que finalement, même s'il était gros, même s'il était balèze, ce n'était pas suffisant pour se battre contre l'armée de Dieu, il aurait pu s'arrêter là et dire, bon, bah, c'est bon, hop, j'ai mis un bon coup, il est blessé, on va s'arrêter là maintenant et on va passer à autre chose. Mais le texte nous montre, alors on va lire ensemble dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 50, « Ainsi sans épée, avec sa fronde et une pierre, David triompha du Philistin en le frappant mortellement. Alors il se précipita sur son adversaire, saisit l'épée de celui-ci, la tira de son fourreau, acheva l'homme, puis lui trancha la tête. Quand les Philistins virent que leur héros était mort, ils prirent la fuite. Les soldats d'Israël et de Juda s'élancèrent en poussant des cris de guerre et poursuivirent les Philistins jusqu'aux abords de la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les cadavres des ennemis jonchèrent la route de Shaharaïm jusqu'à Gath et Écron. Au retour de cette poursuite acharnée, les Israélites pillèrent le camp des Philistins. Et David prit la tête du Philistin et la fit porter à Jérusalem. Il déposa ses armes dans sa propre tente. Lorsque Saül, le roi, avait vu David s'avancer à la rencontre du Philistin, il avait demandé à son général Abner, « De qui ce jeune homme est-il le fils ? Abner ?» Abner répondit, « Aussi vrai que tu es vivant, ô roi, j'en sais rien. » Alors ordonna Saül, « Informe-toi donc pour savoir qui est le père de ce jeune homme. » Quand David fut de retour au camp après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le conduisit devant Saül. Et David tenait encore en main la tête du Philistin. Quand Saül lui demanda, « De qui es-tu le fils, mon garçon ?» Et David lui répondit, « Je suis fils de ton serviteur, Isaïe, de Bethléem. » Goliath tombe, Dieu l'a terrassé au travers du geste de foi de David. Et David aurait pu en rester là. Il aurait pu dire, bon, bah, c'est bon maintenant, ils ont compris la leçon. Mais là, il va jusqu'au bout. Il prend le glaive de Goliath et il va lui couper la tête. Définitivement, il va mettre un terme à la menace potentielle, éventuelle de ce géant. La photo est parlante. Il va jusqu'au bout. Vous vous souvenez comment Goliath est arrivé jusqu'ici? Parce que son prédécesseur, en l'occurrence Josué, lui n'avait pas été jusqu'au bout. Lui n'avait pas mis tous les géants à mort comme Dieu lui avait ordonné, par flemme, par paresse, parce qu'ils se sont dit « bon, on en a tué plein, on va laisser les autres tranquilles », par négligence, et le Goliath, des années après, vient les faire trembler. Est-ce que David a compris la leçon? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a compris que quand Dieu lui dit de faire quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Peut-être que des fois dans nos vies, on n'a pas été jusqu'au bout. Et ces choses-là nous font trembler, on l'a vu lors de du premier épisode, lors de la première partie de ce message. On n'a pas été jusqu'au bout pour tout un tas de raisons. David ne refait pas la même erreur. Et d'une certaine manière, c'est comme s'il vient sceller en disant « Maintenant, c'est terminé. Maintenant, les géants, quand je coupe la tête de Goliath, et puis c'est marrant, vous imaginez la scène, il prend la tête, et puis on a l'impression qu'il se balade partout avec, et puis ah, le roi l'appelle, et puis il vient avec sa tête sous le bras, vous imaginez ?» Salut Saül, je voulais savoir d'où tu viens. Ah bah justement, je suis le fils de machin. Et puis t'as vu Goliath? Il y a comme une proclamation qui est là. Voici ce géant, c'est terminé pour lui. Ce géant-là ne viendra plus me hanter. Ce géant-là ne viendra plus nous faire trembler. Et donc il tue Goliath. Et la suite de l'histoire, c'est qu'il va tuer après tous les autres géants, tous ses frères. Il faut aller jusqu'au bout. J'ai remarqué dans notre époque, peut-être que j'idéalise l'époque d'avant, mais on a tendance à dire c'était mieux avant. Vous avez remarqué ça? Mais ça ne doit pas être vrai parce qu'avant on disait aussi que c'était mieux avant. Enfin bref. Et donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui on a beaucoup de peine dans la persévérance. On a beaucoup de peine à aller jusqu'au bout. Alors je parle d'aujourd'hui parce que c'est ma génération, c'est mon époque, c'est dans la salle dans laquelle je vis. Mais même dans nos églises où on aime le Seigneur, il n'y a aucune critique, aucun jugement. Mais on s'engage souvent. Ah, parce que le Seigneur m'a parlé, j'ai une révélation. Et puis la révélation dure 2 jours. Parce que j'ai du mal à persévérer et d'aller jusqu'au bout. Tellement de gens, alors pas ici bien entendu, dans d'autres églises, sont venus me voir à la fin du message parce qu'ils ont été bénis dans telle direction. Ah ça y est maintenant, il n'y a aucun jugement parce qu'on est tous pareils. Et puis on a du mal à aller jusqu'au bout, à mettre les choses à mort jusqu'au bout. On choisit de pardonner par exemple parce que le message nous y exhorte et puis on sent que le Seigneur nous demande d'y aller et de pardonner peut-être à ceux qui nous ont fait souffrir ou peut-être autre chose encore. Et puis on est touché, on se dit « Ah, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. » Et on a du mal à aller jusqu'au bout. Et ça demeure un géant dans nos vies qui vient nous hanter, nous faire trembler et nous empêcher d'avancer. Je dis ça parce qu'il y a 3 dimanches, nous sommes levés, nous avons demandé la prière en disant « Ben voilà, moi j'ai des géants et je veux qu'ils tombent. » Et la question que je nous pose sans aucun jugement, et chacun sait ce qu'il y a dans son cœur, et le Seigneur plus que vous encore, mais combien ont laissé l'étincelle s'éteindre depuis ? Combien sont restés en fait sur juste une interpellation et n'ont pas demeuré dans le combat pour faire tomber ce géant jusqu'au bout? Combien ont toléré d'une certaine manière encore des petites imperfections? Vous savez, lorsqu'on rencontre le Seigneur, j'ai remarqué, on est très radical la plupart du temps. C'est tellement beau ce qu'on a vécu, tellement beau de rencontrer le Seigneur qu'on a envie d'aller jusqu'au bout et puis de faire tout un tas de choses que même le Seigneur ne nous demande pas. Et puis j'ai remarqué qu'au fur et à mesure, on se tiédit de plus en plus parce qu'on accepte des choses que pourtant le Seigneur nous a demandé de renoncer. Alors évidemment, ne soyons pas radicaux légalistes, soyons simplement radicaux avec ce que le Seigneur nous montre. Mais j'ai remarqué que souvent ça se passe comme ça dans nos vies. Et moi, je l'ai remarqué aussi, il arrive le cas échéant que j'ai besoin de me ressourcer et puis j'aime bien aller, et je vous partagerai aussi, souvent à Mulhouse. Vous connaissez certainement comme église et vivre des moments avec les pasteurs, Samuel, etc. où je reviens, je suis ressourcé, je suis au taquet comme on dit et puis je reviens et je me dis à partir de maintenant et puis finalement je remarque que chasser le naturel, il revient au galop quoi. Et que de l'eau chaude bouillante, au fur et à mesure, l'eau peut tiédir aussi. Parce que j'accepte le compromis, parce que j'accepte souvent de ne pas aller jusqu'au bout. J'ai remarqué... Nous sommes aujourd'hui en France, un super pays merveilleux que le Seigneur aime, mais comme tous les autres pays merveilleux que le Seigneur aime. Et depuis quelques années, on aime bien se la couler douce en français. Ce n'est pas une critique, mais on aime bien nos RTT, on aime bien nos vacances, etc. Et je ne dis pas que ce n'est pas juste, ce n'est pas ça du tout, mais une certaine mentalité, je trouve, qui s'est installée, qu'on retrouve même souvent dans l'Église. Et on a peine, du coup, à pouvoir compter sur les uns, sur les autres. Et c'est la même chose dans nos vies spirituelles. J'ai remarqué... C'est plus facile de regarder la télé, par exemple, que de prendre un bouquin et de le lire. Et de sortir dehors et d'aller se mettre en route. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, notre vie chrétienne s'apparente à quelque chose que je consomme le dimanche matin, où j'ai un bel enseignement avec un prédicateur sympa, beau gosse, parle de moi, voilà. Et finalement, je consomme, je prends, mais dès qu'il faut se mettre en route, j'ai peine. Quelqu'un a dit que les Français sont les meilleurs théoriciens au monde. Il y a des Français dans la salle ? Les meilleurs théoriciens au monde, mais les plus mauvais praticiens. Vous avez remarqué, en politique, c'est pareil. C'est à mourir de rire quand on les voit. C'est-à-dire que celui qui vient d'être dégagé par l'autre, là, il sait ce qu'il faut faire, alors que quand il était au pouvoir, il ne l'a pas fait, évidemment. Et puis chacun sait, quand on écoute, moi des fois je regarde des émissions politiques, et je l'écoute, je me dis, mais il a carrément raison, celle-là. On sait la théorie, on sait. Mais on ne met jamais en pratique. C'est rare de voir un homme politique qui met en place, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs, quel que soit le courant politique, hein, gauche, droite, milieu, centre, ce que vous voulez, c'est un peu tous pareil d'ailleurs. Prions d'ailleurs pour nos gouvernants, et prions sérieusement d'ailleurs, parce que je pense qu'on est à l'aube de quelque chose de pas beau dans notre pays, mais le Seigneur reste au contrôle. Tout ça pour dire que dans nos églises, on est un peu comme ça aussi, je crois. On a beaucoup de révélations, beaucoup de consommation, et puis à l'heure d'Internet, c'est encore plus vrai. Aujourd'hui, je vois un message sur telle chose, je consomme, et puis, j'ai remarqué dans ma vie que des fois, j'entends tellement de choses que j'ai l'impression que je les vis. Et le Seigneur, des fois, a tendance à m'arrêter et puis me dire, mais Julien, t'en es où? Si je parle de pardon, par exemple, ah oui, pardon, c'est ci, c'est ça, faut faire ci. Et le Seigneur me dit, mais toi, t'en es où, toi, vraiment? Parce que tu sais, parce que tu comprends ce que tu vis et là où tu en es. par rapport au pardon, par rapport à tout un tas de choses. Alors peut-être que la dernière fois, je dis ça parce que je me suis souvent retrouvé dans cette posture. J'entends, je suis touché, je me lève, je demande la prière et je veux m'engager. Ça dure à peu près 2 secondes et demie. Et peut-être que déjà, 3 dimanches après, 2 dimanches après, ben, je suis déjà rassis. Puis finalement, bon, ben, le géant me fait trembler, mais je l'ai accepté. Je suis devenu fataliste. Je n'ai plus la volonté de faire changer les choses. On est à une époque un petit peu comme ça aujourd'hui, dans nos églises aussi. On accepte les choses et puis on compte. On compte les points que l'ennemi fait dans nos vies, les ravages que fait l'ennemi dans notre église. On dit, il est où lui le frère? Ah oui, il a quitté le Seigneur. Ah, et puis tous les enfants, ah ben, ils sont maintenant dans le monde. Et on n'en fait que compter, on acte. Ah oui, nous avons pris conscience, oui, oui, oui. Et les choses ne changent pas parce que des fois nous dormons et nous n'allons pas jusqu'au bout. Alors du coup, l'interpellation, elle est valable pour chacun de nous. Et quand je dis nous, c'est moi aussi. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Est-ce qu'on est comme David qui, malgré les réussites, malgré les victoires, je remarquais aussi souvent dans nos vies, on a des petites victoires et puis ça nous suffit. Puis on se dit, allez, maintenant, je peux me reposer. David aurait pu faire ça. Non, il a été jusqu'au bout. Alors, peut-être que vous avez été interpellé ou pas. Mais peut-être que le Seigneur vous a parlé, vous a montré les géants, et peut-être que vous avez juste constaté, et puis vous avez dit, moi, je veux, mais finalement, c'est tellement dur, je n'aurai pas la force d'aller jusqu'au bout. Bonne nouvelle, tu n'auras pas la force d'aller jusqu'au bout. Mais si tu choisis d'y aller, le Seigneur va te rendre capable. C'est ça, la différence. La différence, c'est que le Dieu que nous servons ne nous dispense pas de tous les problèmes, de toutes les difficultés, ne nous dispense pas de vivre la peur ou la maladie ou je ne sais quoi d'autre. Mais par contre, il a promis d'être avec nous et de faire son œuvre en nous et aussi au travers de nous. Ça, c'est la réalité, c'est l'évangile, je crois. L'évangile, la bonne nouvelle. Alors ce matin, peut-être que tu es là et tu te dis, ok, j'ai identifié mon géant, c'est sûr qu'il me prend la tête ce géant, j'ai envie qu'il tombe, mais moi je ne suis pas prêt à aller jusqu'au bout. Mais maintenant, j'entends ce qui est dit. Et j'aimerais tellement le terrasser, d'une certaine manière, une bonne fois pour toutes. Que tout ce qui m'a arrêté jusqu'à présent, qui m'a fait trembler, puisse vraiment tomber, vraiment ce matin. Que je puisse choisir de jeter ma pierre comme David, et que, Seigneur, tu puisses faire le reste. Qu'une fois que tu auras agi, le mettre à mort, en prenant l'épée et lui couper la tête. Alors on va baisser nos fronts, on va baisser nos têtes. Le Seigneur est là, il voit nos cœurs, il parle. C'est lui qui vient confirmer, c'est lui qui vient faire son œuvre en chacun de nous. Et peut-être que ce matin, tu écoutes, tu entends la voix du Seigneur, tu es interpellé. Et ce matin, tu te dis, mais moi j'en ai assez d'être interpellé et ne rien faire. Ce matin, je veux me lever. Je veux me lever et terrasser une bonne fois pour toutes ce géant. Je ne veux pas faire semblant, je ne veux pas minimiser, je ne veux pas faire les choses en partie, ne pas aller jusqu'au bout comme les fois précédentes. Ce matin, je veux vraiment aller jusqu'au bout. Alors, on va juste prendre un petit peu de temps. J'aime que nous puissions prier ensemble, puissions prier les uns pour les autres. Mais j'aimerais juste laisser la possibilité à ceux qui disent, ok, moi je suis là ce matin, il y a mes frères, il y a mes sœurs, mais c'est sûr que la parole, elle est pour moi. Et moi, je ne veux pas faire comme d'habitude, passer à autre chose. Je veux vraiment me lever, m'emparer, dire « Ok, je vais jusqu'au bout. Ok, je vais jusqu'au bout ce matin, 17 août 2026, 25. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais vraiment faire ta volonté. Si tu es là ce matin, simplement lève-toi à ta place. Je ne vais pas vous faire venir devant. Simplement lève-toi. Pour dire à ton âme, je me lève. Pour dire à la passivité qui est souvent en nous, en toi, ce matin, je me lève. Et c'est le jour où je déclare la mort définitive de mon géant. Je ne sais pas de quelle manière, mais je le déclare. Ce matin, je me lève à ma place pour signifier à mon âme, à mon corps, à mon esprit, à mon Dieu aussi. C'est comme le geste de David qui jette la pierre. Ce geste symbolique, ce matin, je me lève à ma place et je déclare que le géant tombe d'une manière définitive dans ma vie. Merci Jésus. Père éternel, Merci de ta présence. Merci Seigneur parce que c'est toi qui touches les cœurs, qui convainc les cœurs. Seigneur, tu vois tous mes frères et sœurs qui se sont levés ce matin. Père, étends ta main sur eux. Seigneur, vois ce pas de foi, Seigneur, qui a été fait. Chacun s'est levé en disant, c'est terminé ce matin. Le géant qui me terrifie, qui m'empêche d'avancer, qui me bloque depuis tant d'années peut-être. Ce matin, il tombe en ton nom, Jésus. Je fais ce pas de foi avec ce que tu m'as donné, les armes que j'ai reçues dans ma relation avec toi, ces petites armes, mon petit pas de foi, pour que ta grâce puisse combler le petit pas de foi que je fais ce matin. Père, étends ta main, Seigneur, sur chacun d'eux. Étends ta main, Seigneur, sur ton église ici, sur tous ceux debout, tous ceux qui sont restés assis, tous ceux que tu connais, tous ceux qui sont à la maison et qui pourraient être concernés, Père éternel. Fais ton œuvre, conduis, Seigneur. Conduis, Seigneur, vers une victoire totale par rapport aux géants qui bloquent. Toute addiction, tout péché récurrent, non-pardon ou je ne sais quoi encore, Père, viens faire jaillir la victoire. Tu es celui qui fait entrer dans des choses nouvelles ce matin. Tu es celui qui fait jaillir des fleuves en plein désert. Père, nous te louons pour cette réalité que nous croyons, que nous saisissons, Seigneur Jésus. Conduis-nous chacun dans ce que tu as prévu, Père. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que la gloire te revienne, Seigneur.
Un parfum de valeur. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi.
Gloire à Dieu.